Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 21 décembre 2016, émission numéro 116, Christophe Rollin au micro, Isa est là, ainsi que Lutèce, des rappeurs lyonnais,
oui,
Lutèce, et pourtant ils sont bien de Lyon et ils vont nous indiquer pourquoi ce nom. Et puis voilà, alors 14h et 6 minutes, un peu de retard, que de problèmes techniques, vous l'avez peut-être entendu, Radio Canut ces jours-ci, c'est pas GG, hein, la vitre à l'entrée a été brisée, peut-être dans les médias lyonnais avez-vous entendu parler de différentes déclarations qui auraient été faites sur notre antenne, enfin bref, néanmoins cette belle émission de fin d'année va très bien marcher. Nous écouterons bien un premier titre justement, puisque Marty étant un peu enrhumé, je ne les ai même pas nommés, Marty McFly presque, et puis Yann Van Duren sont donc les deux figures, les deux têtes de ce groupe Lutèce. Marty est un peu enrhumé, donc la musique sera uniquement de la musique enregistrée, et puis enfin moins de la musique qui est d'ailleurs disponible sur SoundCloud, sur d'autres plateformes. Ils nous diront tout ça jusqu'à 15h comme d'habitude tous les mercredis. Vous nous écoutez sur Radio Canut à Lyon, c'est le 102.2 de la bande FM, ou bien vous nous écoutez également sur internet, vous avez tout à fait raison, c'est radiocanu.org. On essaie de caler tout et puis ça commence dans quelques instants. Ça va marcher. Non ? Allez, on remet un peu de générique de Massive Attack parce que Massive Attack, j'en suis convaincu, c'est une influence également de Lutèce. On remet Massive Attack et puis on continue avec Planète qu'on va réussir à vous diffuser.
Sans avance, il pleut pas d'arc-en-ciel. On veut que je renonce pas,
par la vie, tout est teinté par le noir. Vers les cieux j'avance, vers les cieux j'avance. Je peux plus reculer, je peux plus reculer. Ferme les yeux, regarde pas ça. Par la vie, tout est teinté par le noir.
On va réussir, vous allez voir, tout va marcher. Nous écoutions à l'instant Je pars de là, et ce n'était pas Planète. En revanche, c'était tout de même bien le groupe Lutès qui est donc avec nous aujourd'hui. Et c'est super. Je crois que je vais arrêter de parler. Isa, je vais te laisser la parole. Bonjour Isa.
Salut tout le monde.
Et puis bonjour à nos invités, et j'arrête de
bonjour,
parler, c'est terminé.
Bonjour à tous.
Salut.
Donc Marty et Yann Van Doren.
C'est ça.
Yes. Alors, qui est Marty, qui est Yann Van Doren?
Bah moi c'est Marty.
Marty.
C'est le petit.
Ouais, voilà.
Avec des lunettes.
Ok. Donc c'est vous qui vous occupez plus ou moins de la production, parce que je sais que vous avez fait pas mal de choses hors avant même Lutès.
On peut se tutoyer, hein, faut se tutoyer.
Ouais. Ouais, c'est comme à la radio, on se voit.
Voilà, ils ont raison, c'est le truc. Normalement, notre grand modèle étant le service public, Radio France, France Culture, surtout.
D'accord, okay.
Il y a un vous soyez. Non, mais on peut se tutoyer, c'est comme vous êtes. C'est okay. Une dernière émission,
moi, pareil,
c'est émission de fin d'année. Donc Yann, c'est celui qui porte une barbe et qui est, dis-tu, Isa, producteur, c'est ça?
Yes.
Ouais. Donc moi je voulais vous parler un peu de votre rencontre, comment, parce que je sais que apparemment vous étiez en fac de cinéma, je crois, ensemble, c'est quelque chose comme ça.
En histoire de l'art.
Ouais, ou on est en histoire de l'art. Alors comment est-ce que vous en êtes arrivé à vouloir faire de la musique ensemble et créer un groupe de rap?
En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait tous les deux de la musique. Et il y a une complémentarité en fait dans Marty qui était dans le rap et moi qui faisais de la prod. Et du coup, ouais, c'est... Et moi je faisais aussi du rap, mais...
Ouais, mais comment le saviez-vous ça par exemple? C'est quoi, des conversations entre deux cours ou,
Moi je m'en souviens bien, enfin je sais pas si tu t'en souviens. Il faut toujours qu'il y en ait un qui se souvienne plus.
Non,
mais on s'en souvient bien. C'était une fois après des cours... On s'était dit, lui m'avait dit qu'il faisait de la musique, et moi en fait je faisais beaucoup de musique avant aussi.
C'est ce qui est quand même rare dans le cinéma, c'est un peu bizarre, non?
Ouais, c'est pas du cinéma, c'est de l'histoire de l'art.
Ah d'accord, oui, ouais. J'ai décroché, histoire de l'art.
Mais on le faisait en hobby. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal d'électro et de rock aussi. Et en fait, j'avais arrêté complètement depuis 3-4 ans, un truc comme ça. Et il m'a dit, ouais, je fais de la musique, est-ce que ça... Et du coup, on en est venu à en faire ensemble, tout simplement. On s'est vu le soir même ou le lendemain, je sais plus. Mmh. Et en fait, tout de suite, on a commencé comme ça. Et on s'est jamais arrêté, en fait. On s'est vu d'un jour et depuis, je crois qu'on se voit quasi tous les jours pour faire ça, quoi. À quelques exceptions près.
Et la fac, vous avez lâché ça? C'est terminé?
Non.
Non.
Enfin, moi j'ai terminé, mais j'ai lâché ça parce que histoire de l'art, c'est... malheureusement, il n'y a pas trop de débouchés par la suite.
C'est quoi, un petit CAPES, c'est ça?
Non, même pas. Moi j'avais fait une licence en fait. Et du coup, après ça, il n'y a pas grand chose de prévu. Il faut continuer, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas continué. Enfin, moi en tout cas, voilà.
Mm-hmm. Et toi, c'est... Moi, je suis allé en troisième année sans valider en fait. Parce que je prenais beaucoup de temps dans la musique, tout ça, et au final. Au final, j'ai dévié, on va dire, du droit chemin.
Et quelles étaient vos influences au niveau des prods? Enfin, quand vous avez commencé à faire de la prod, vers quoi vous êtes tourné?
Attends, Isa, moi je commencerai volontiers avec cette simple question. La prod, la production, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, ça consiste en quoi exactement? Parce que autant je crois comprendre Marty, vous dites un peu de, je suppose, composition, c'est ça? Donc électro, on bidouille des choses sur un ordinateur ou plus ou moins?
Oui. Non, sample aussi, je pense.
Et la production,
la prod, c'est simplement de faire l'instrumental, quoi.
C'est le mot
du milieu, enfin, du rap pour dire.
Un producteur, c'est pas comme dans le cinéma où le producteur, il va financer. c'est vraiment celui qui compose en fait.
Ouais. Voilà, dans qui fait rap, la musique, tout simplement.
Mais vous avez un producteur pour Lutèce, ce King Doudou qu'on.
Bah en fait, il fait le même boulot que Yann en fait. Simplement que là sur le EP qu'on a sorti dernièrement, mais ils ont juste travaillé ensemble en fait.
Ouais.
C'est juste ça. Mais
et vous, Marty, vous n'y touchez pas donc à la production?
Si, m'arrive de temps en temps, mais je laisse les hauts professionnels.
Ça passe pas trop dans les pattes.
Voilà, c'est ça.
Alors vous, c'est-à-dire Marty, c'est plus la composition, c'est ça?
Du coup, c'est plus les textes, ouais. C'est plus les textes. Ouais, et puis voilà, c'est tout. Donc en gros, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est souvent comme ça dans le milieu du rap, c'est que il m'envoie une instru qu'il a faite, donc une prod, qu'on appelle une prod. Et voilà, après on.
Ouais, si elle vous parle, enfin, donc là, vous.
Voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est d'écrire dessus, puis d'enregistrer. Voilà. Comme le ferait un. En fait, pour ramener ça au milieu de la musique d'une manière générale, lui, il est auteur, compositeur, interprète. Et moi, je suis.
Parolier.
Auteur, interprète.
Ou auteur, interprète.
Voilà. C'est ça, hein, on peut dire ça.
Ouais.
Voilà.
L'aspect compositeur, Marty, vous n'avez pas.
Moi aussi, je suis musicien à la base, mais je l'ai volontairement laissé de côté parce que voilà, je voulais me concentrer sur cet art à part entière.
Et c'est parce que ça prend beaucoup de temps, c'est de faire prendre, ça prend énormément de temps.
Oui, pour être vraiment consistant et vraiment se faire un nom et tout, il faut du temps. Ouais. Après, une prod en elle-même, ça peut se faire en 20 minutes, quoi. Il y a moyen d'avoir.
Tu vas t'attirer les foudres des musiciens, disons.
Ouais, après, effectivement, si on prend un peu l'exemple de quelqu'un comme Jul, effectivement, lui, c'est quelqu'un qui est capable de faire à peu près 4 à 5 prods en un ou deux jours, quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui.
C'est ça, il a une recette,
qui a une recette et qui fait ses trucs assez rapidement.
Donc,
pour revenir juste au niveau des influences, c'était quoi vos influences au niveau des prods au départ, enfin rap ou hors rap même?
Alors tu parles de Lutèce, Isa, ouais. ou avant Lutèce? Qu'est-ce que vous écoutiez peut-être, on évoquait ça en antenne, quand vous étiez au collège, vous Yann c'était quoi? Et Massive Attack aussi un peu ou, non?
Non, pas trop, moi beaucoup de hip-hop américain, beaucoup... je sais pas, il y a trop
des
de
trucs... Des anciens ou des gens plus actuels? Parce que je sais que le son d'Atlanta vous parle beaucoup.
Ouais.
Enfin, l'ancien son d'Atlanta, genre des gens comme Ludacris ou.
Ouais, j'ai pu écouter.
Maintenant, des gens comme, voilà, Chief Keef.
Ouais, alors ça, bah, pas mal du coup, mais au collège, ça n'existait pas encore.
Ouais. Mais forcément, Chief Keef, oui, effectivement,
ouais. il avait
clairement, ouais, clairement.
Et Isa, on en tient, j'y pense, hein. Enfin des Lyonnais. Ça fait quelques temps qu'on n'avait plus trop de Lyonnais. David Ayala ou Stéphane Roche, dernièrement, que nous avons eu. David, je crois, était montpelliérain. Stéphane Roche, il est Montagny, du côté de Roanne, il me semble. Vous êtes de Lyon. Le collège, lycée, tout ça, c'était à Lyon, ouais?
Non, moi, c'était à Avignon.
Avignon, ah bah non, ouais. Alors mince. Et vous, Marty, vous êtes lyonnais quand même, non?
Non plus.
Ah, c'est pas vrai.
En fait, moi, je suis là depuis une dizaine d'années, donc.
Ah, et quand même.
Je me considère comme lyonnais.
Oui.
Mais collège, lycée, non, c'était pas.
Non. Alors, la fac, c'est Lyon 2 ou Lyon 3 pour histoire de l'art? C'est
Lyon 2. Ouais.
Lyon 2, c'est bien. C'est bien,
voilà.
C'est bien Lyon 2.
Il y a ça qui reste.
Voilà. Mais non, ouais. On est venu. Enfin, moi, j'ai 28 ans. Et en fait, je suis venu pour mes études à la base. Voilà.
Dans la grande ville, oui, quand on est, c'est ça, Avignon aussi, ouais, si, à Marseille, il y a Aix-Marseille, non?
Ouais, il y a Marseille, Aix-en-Provence, mais moi j'avais des amis qui venaient aussi à Lyon, alors du coup on est venu, et puis j'ai ma tante qui est ici aussi, et voilà, je sais pas, ça me semblait plus exotique que le sud en fait. Du coup,
Et alors, nous en étions, je vous ai interrompu sur les influences, enfin du moins ce que vous écoutiez quand vous étiez au collège, donc à Avignon, faut-il une fois indiquer, ouais. Yann. Et vous, Marty, c'était quel endroit?
Moi, c'était dans la région de Genève-Annecy.
Ah ouais, d'accord. Voilà. Le pays de Gex, c'est ça, ou c'est plus...
Non, c'est pays de... Comment on appelle ça?
La Savoie, non?
Non, enfin, on appelle ça la vallée de l'Arve, en fait. C'est là où il y a Annecy, tout ça...
Et donc vous, c'était...
Pour simplifier.
C'était un peu de Massive Attack à cette époque, alors que vous dites, Yann, non, trip-hop, c'était... Il y a des choses qui n'existaient pas à ce moment-là.
Bah, moi, en fait, mon père est vraiment musicien, donc il est vraiment... Il joue vraiment des instruments, tout ça, il fait du chant, tout ça. Et du coup, j'entendais tout le temps tourner des CD de, je sais pas, de Metallica, des artistes... plein d'artistes comme ça... Mais moi, de mon côté, j'écoutais vraiment que du hip-hop, des trucs, je sais pas, moi, j'écoutais G-Unit, des
ouais,
trucs comme ça.
Ah, vraiment, ouais, ancien. Oui, 57.
Lil Wayne après.
Ouais, Lloyd Banks, ouais, Lil Wayne.
G-Unit.
Ah, j'écoutais ces trucs-là et tout. Après, dès que ça a évolué, Bah, Lil Wayne, il a bien amené un truc quand même. Kanye West aussi, grave, avec tous ses albums.
Ouais, je sais que Kanye West, c'est une de vos grosses influences.
Mmh. Ouais, carrément.
Effectivement. Enfin, quel est le premier disque de Kanye West qui vous a vraiment... Enfin,
le
qui
premier, vraiment... College Dropout. Ouais.
D'accord, ok.
2004. Okay.
D'accord. Alors, parce que c'est vrai que c'est un disque sur lequel il a pas mal de featuring.
Ouais.
Ouais, il y a pas mal de featuring. Et
il y en a, ouais.
Moi, je trouve qu'à cette époque-là, il ira pas encore très bien. Il est même assez effacé sur ses. Enfin, ouais, c'est souvent ceux qui s'enfient sur lui qui sont meilleurs que lui. Je trouve général. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus sur Graduation, je crois, qui arrive en 2006, si je ne me trompe pas.
Ouais,
2007, je crois. 2007. Ouais. C'est plus là qu'il commence à être.
C'est vrai, ouais.
Il commence à être un peu plus accompli.
Bah, c'est moins du rap, ça devient plus.
Ouais, effectivement, ouais. Après, je pense qu'il est bien arrivé à faire un certain mix entre rap et pop, effectivement.
Carrément, ouais.
À cette époque-là. Donc, ouais, c'est premier disque, effectivement. Mais au niveau de Kanye West, c'est vrai qu'au départ, c'est quelqu'un qui était plutôt un compositeur, plutôt que quelqu'un qui était producteur. Qui était... Ouais. Est-ce que c'est peut-être ça qui vous a rapproché dans le sens où. C'est quelqu'un qui faisait des prods avant, qui en a fait beaucoup.
Ouais, ouais, bah en fait, il a. Ce qui peut me plaire dans son profil, ouais, c'est que d'abord, il a commencé par la prod, puis il a rappé. Bah, déjà, c'est un peu comme moi, on va dire.
Ouais, ouais.
Mais aussi, au-delà de ça, il a une approche qui est super musicale de la musique, en fait. Même si c'est un peu. Peut-être ça semble bête de dire ça. Mais il y a plein d'artistes qui n'ont pas du tout une approche musicale, en fait. Et Kanye West, vraiment, en fait, vu qu'il a commencé par faire ses instrus et tout ça, quand il rappait, même s'il rappait pas très bien au début, il y avait vraiment cette notion de ça rentre bien dans la boucle, c'est beau en fait. Ce qui fait, moi je lui envoie un peu des fleurs, hein, mais bon, je pense que voilà, c'est vraiment beau quoi, tu vois. Genre, dès ses premiers albums, c'était très musical, le moindre morceau qu'il fait. Et jamais il va aborder bêtement un morceau, en fait.
En fait, c'est la notion de tout, en fait, dans sa musique. Ouais. Alors que, par exemple, tu prends n'importe quel rappeur d'aujourd'hui, enfin, pas n'importe quel rappeur, mais la plupart, en tout cas, ils vont aller sur une instru.
Surtout
en France, ouais. Ils vont rapper d'une manière bête et méchante,
en fait,
entre guillemets.
Ils vont même pas écouter ce que l'instru dit.
Parce que l'instru, ça raconte un truc, ça raconte... Yann le fait très bien, pour le coup. Enfin, c'est vraiment sa spécialité, entre guillemets. C'est qu'il il écoute l'instru et l'instru véhicule des émotions, et du coup c'est comme ça qu'il faut, selon nous, en fait, écrire dessus. Alors que beaucoup de rappeurs, ils vont écouter l'instru, ils vont écouter le beat, ils vont voir que ça fait
limite, ils ont déjà un texte et ils vont le poser
comme ça, et du coup ils vont poser dessus sans réfléchir sans écouter, en fait, la musique derrière. Et c'est, quand il dit musical, c'est surtout cette approche-là, ouais. En fait.
Après, ça veut pas dire que c'est pas bien, parce qu'il y a des gens qui vont être du coup très techniques et qui vont être vraiment salués pour leur prestation technique.
Voilà.
Genre, ils vont découper le truc. Genre, moi, j'arriverai jamais à faire des trucs comme certains font. Mais Kanye West, en tout cas, s'il a pas ce côté technique, il a une musicalité de malade, quoi.
Et est-ce que vous êtes aussi perfectionniste que lui l'est, enfin, voilà, en studio, parce que c'est vraiment quelqu'un qui se prend la tête très longtemps, qui il peut même pas avoir changé même les morceaux qu'il va annoncer sur son album.
Non,
enfin,
non, bah, lui,
un peu comme voilà, Dr. Dre peut faire parfois, genre il va rester un an sur une prod,
non,
il va pas la lâcher, il va rester...
Moi.
On y réfléchissait la dernière fois, et moi je sais que, par exemple, je suis vraiment dans l'instant, en fait. Le fait de se professionnaliser un peu en ce moment, ça fait qu'il y a des morceaux qui vont sortir peut-être 3-4 mois après, et je peux plus les écouter, en fait.
Ouais.
J'ai même plus envie de les sortir. Ouais. Et limite, c'est peut-être un curseur, du coup, de se dire, quand je peux plus les écouter, c'est que le morceau est prêt, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais avant, ce qu'on adorait faire, c'était on se posait à une soirée, on faisait l'instru, on faisait les textes, etc. On posait et on la sortait, on faisait un visuel, on la sortait dans la soirée, quoi.
Ouais.
Et ça, c'était vraiment notre mode de fonctionnement de base qu'on aimait beaucoup. Mais on peut plus se permettre de faire ça maintenant avec ce qu'on essaye de faire, en tout cas, d'une manière plus professionnelle.
Un circuit, un petit
voilà.
peu. Voilà.
Mais du coup, c'est très différent, mais je sais plus pourquoi je disais ça à la base. Mais
alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être écouter un morceau,
ouais,
Isa, non ? On fait une sorte d'une petite pause, puisque en plus, je l'ai même pas indiqué, enfin, je l'ai dit en début d'émission, j'ai d'ailleurs certainement tout à fait mangé mes mots et tout ça. Vous sortez Lutèce, enfin, vous avez sorti il y a peu, je crois, un EP, c'est ça ?
Ouais, Laps.
sur lequel se trouvent 4 titres, 5 titres.
5 titres.
Ouais, cinq titres. On a déjà écouté un premier en début d'émission, on devait écouter Planète, bon ça n'a pas très bien fonctionné, c'était Je pars de là, et là je propose d'écouter BPM, c'est ça ? Je sens plus les battements. Et puis après, on en parlait tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait faire à défaut d'explication de texte, peut-être qu'on pourrait un peu évoquer ces paroles.
Si vous voulez.
Nous continuons, 14h25, Radio Canu, avec quelques problèmes techniques aujourd'hui, mais bon, on va quand même réussir à diffuser ce BPM sur l'EP Laps par Lutèce.
J'quitte la planète Houston, j'décolle.
Je sens plus les battements.
Dans ma tête c'est Woodstock, j'm'envole.
Je sens plus les battements.
Cherche-moi plus, j'suis loin d'eux comme Lennon.
Je sens plus les battements.
Dans ma tête c'est Woodstock, j'm'envole.
Je sens plus les battements.
On a enfin pu écouter un morceau en entier. C'était donc BPM. C'est un terme anglais, ça, BPM, non ? C'est per movement.
Bah, c'est battement par minute aussi.
Battement par minute.
Je sais pas si c'est en anglais aussi, mais aussi je pense.
Je sais pas.
Mais en tout cas,
j'imagine. Ouais, je pense.
Depuis ce début d'émission, Isa vous questionne beaucoup, Yann, Marty, sur vos influences. Mais là, on pourrait carrément presque ausculter ou analyser ce morceau un peu. Alors non, enfin, je dis analyser, ausculter, mais disons quelques grandes idées. Donc là, par exemple, pour ce morceau, la production, c'est vous, Yann, qui l'avez assuré.
Ouais. C'est avec King Doudou. Du coup, en fait, on a fait, comme on disait tout à l'heure, on a fait tous les morceaux à deux. Et celui-là aussi, du coup. Ouais.
Et pour ce qui est donc de la composition, enfin du moins de l'écriture des textes, ça c'est vous, Marty.
Il faut savoir un truc sur l'écriture dans le domaine du rap. Celui qui n'écrit pas ses textes, il se fait taper sur les doigts.
Donc il y en a beaucoup qui n'écrivent pas leurs textes dans
le rap. Il y en a beaucoup, mais ça se sait pas trop. On appelle ça des ghostwriters. C'est une technique qui, aux États-Unis, se fait de plus en plus, mais en France, c'est même pas la peine d'y penser, ou en tout cas de le dire.
Et pourquoi ?
Parce que, en fait, ça fait partie de cet ADN hip-hop qui est de je gratte mes textes. Enfin, j'écris mes textes, je les pose devant les gens parce que ça vient de moi et que je suis censé montrer que je suis le plus fort ou pas. Enfin, à la base, je pense que c'est à peu près ça.
Ouais, l'authenticité, un petit peu dans le rap, tout le monde est en quête d'authenticité. Je suis allé en prison, donc je vais vendre des CD parce que je suis authentique.
Enfin, je trouve que ça, c'est un peu perdu dans le sens où il y a une époque où avant c'était vraiment. Moi, je sais que dans les années 2000, c'était quasiment impossible de faire du rap en France sans être un mec de cité ou quelqu'un qui avait. C'était impossible. Ouais. Et je pense que quelqu'un comme Aurel San aux alentours des années 2010, comme ça, c'est un peu l'un des premiers à être arrivé en étant quelqu'un qui était. Voilà, qui venait de Caen, qui était quelqu'un qui, entre guillemets, était un mec normal, qui n'a pas forcément fait de prison, et qui a amené peut-être autre chose, c'est-à-dire qui a montré qu'on pouvait faire voilà, du rap en n'étant pas forcément
je suis vraiment
une racaille ou quelqu'un.
D'une culture crasse, moi, et c'est NTM et IAM, là, dans les années 90, ça appartiendrait à ça, oui. Ces gens venaient un peu Marseille, c'était quoi ? C'était quartier nord pour IAM, c'est ça ? Et NTM, c'est région parisienne, il me semble, Joe et Star.
Oui, on va dire que comment dire, le modèle, il est là. Après, voilà.
Bah après, là, c'était peut-être plus de la revendication que quelque chose de très, très quartier. Je pense que c'est devenu quelque chose de vraiment très, très identifié aux gens de quartier, aux alentours peut-être aux alentours de la mafia Cafri, enfin, ce genre de gens-là qui étaient vraiment, pour le coup, pour beaucoup d'entre eux, même des gens qui, à la base, étaient un peu des voyous, des gens qui allaient en prison, qui faisaient des braquages. Certains, même d'entre eux, en sont morts. Mais je pense que c'est plus vers 98-2000 que c'est devenu quelque chose de très, peut-être, identifié très très quartier, peut-être. Et que je pense que depuis 4-5 ans, ça a quand même vachement changé, il y a quand même vachement plus de gens.
En fait, je pense que c'est. On pourrait aller un peu plus profond dans les choses, entre guillemets. Je pense que c'est dû aussi à notre époque, qui est une époque qui est très éclectique. Regardez les Stan Smith. Les gens portent des Stan Smith et puis ils vont mettre des trucs d'années 2000. Ils vont vraiment mélanger tous les styles. Et la musique n'échappe pas à ça, en fait. Le rap est mélangé à l'électro, qui est mélangé au rock. Le rock est mélangé à je ne sais quoi. Et c'est pareil pour le hip-hop, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, c'est la seule musique qui, au regard des gens, n'a pas le droit d'évoluer. Moi, par exemple, quand je parle à des anciens, entre guillemets, enfin, quand je dis anciens, pas anciens, mais voilà, quand je parle à des gens qui n'écoutaient pas forcément du rap à l'époque, quand j'entends le cliché des gens qui disent j'ai envie de dire, mais comment est-ce que ça peut être. Comment c'est encore possible
15 ans que plus personne dit ça, en fait.
J'arrive pas à comprendre, et du coup, voilà, moi je trouve que le rap, c'est comme tout type de. Prenons le rock par exemple, à l'époque d'Elvis, c'était. De telle façon. Ensuite, il y a les Rolling Stones qui sont arrivés un peu plus féminins, un peu plus dingues, etc. Ensuite, il y a eu le rock un peu psyché, machin, etc. Et le rap, c'est exactement pareil. La base, c'est le rap un peu revendicatif, etc. Quoique, à la base, c'est quand même une branche aussi festive, puisque ça vient des mecs qui. Un MC, c'était les Microphone Checkers qui dans les boîtes, finalement, la base, elle est là.
En fait,
qui parlait sur une musique funk, qui disait allez, venez, les caleçons JB, les peluches, comme dirait IAM. Et voilà. Mais du coup, donc la base, elle est là. Et puis après, donc il y a des évolutions type un peu plus psychédélique, avec les gens qui fument, etc. Il y a des évolutions, il y a des branches, en fait, c'est comme tout.
Ouais, mais t'as toujours ce côté. Pour que tu sois crédible un petit peu, il faut quand même que tu aies un background, un gang, etc.
Parce que je pense que c'est moins le cas maintenant, quand même. Je pense que maintenant, ça a quand même vachement changé.
Mais si tu regardes vraiment,
avant, c'était très, 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 très identifié. Je pense que maintenant, j'ai jamais envie de dire que quelqu'un comme finalement Jules, dans la manière dont il fait de la musique, finalement, sous autotune, qui est une musique très, très populaire, entre guillemets, il fait peut-être partie des gens qui ont amené ça aussi, quelque part. Finalement, le rap aujourd'hui, maintenant, c'est des gens comme Maître Gims aussi. Enfin, voilà, il y a. C'est plus tellement Booba, Rof, Lino, des gens qui étaient vraiment très, très identifiés.
Ouais, ouais,
un peu.
Ouais.
Et alors, revenons à cette question, ils écrivent leurs textes? Ça, tu le sais, toi, Isa? Maître Gibbs,
ouais,
tout ça, ils écrivent,
mais après, j'ai envie de dire que les textes dans le rap, tout le temps, il y a eu des gens qui n'écrivaient pas leurs textes.
Je sais pas si
c'est un groupe comme NWA, par exemple. Je pense que dans NWA, il y en a pas mal qui n'écrivaient pas les textes. Des gens comme Easy n'écrivaient pas leurs textes. Je pense que ça gênait personne.
Oui, c'est sûr qu'en fait, c'est juste que ça se savait pas et c'est tout, quoi. Moi, je suis persuadé que Maître Gims, c'est de la pop, de toute façon, maintenant, un petit peu. Donc, forcément, à mon avis, il calque le modèle de la pop, au final, peut-être.
C'est quelqu'un qui vient du rap et qui fait de la. Enfin, la pop urbaine, un peu comme Soprano, qui à la base vient du rap.
Mais en fait, il faut se remettre dans un contexte. Moi, j'aime bien parler de ça, vraiment, parce que j'aime bien défendre un peu ce qu'on fait, etc. Parce que c'est vrai que nous, on est un peu particulier. Prenons la pop dans les années 80, quelque chose comme ça. C'était Michael Jackson. Michael Jackson, Thriller, c'est du rock. En fait, ils ont pris à l'ADN rock parce que c'est la musique populaire qui marchait à ce moment-là. Et bien aujourd'hui, la musique populaire qui marche à ce moment-là, c'est le rap avec les mecs, comme tu disais, Yann, un peu gang, etc. Et donc, sauf qu'on prend à cet ADN-là pour faire de la pop parce qu'on sait que c'est la musique qui marche. Miley Cyrus, par exemple, etc., c'est exactement ça. Elle vient pas du tout de qui que ce soit et elle fait des chansons avec Mike Will, qui a fait le dernier album avec Ray Schremer. Si Ray Schremer, ils sont aussi d'ailleurs un peu pop, popisés, entre guillemets. Mais voilà, donc c'est normal. Et puis si la musique super populaire dans, je sais pas, 60 ans, ce sera ce sera jouer du violon, et ben la pop elle fera du violon, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est pour dire que
la pop c'est la musique qui marche par définition.
Pop elle vampirise tout le temps les trucs qui marchent populairement, et le rap il échappe pas, en fait. Tu parlais de Soprano, c'est exactement ça.
Bah forcément, effectivement. Et juste pour en venir là, tu parlais de producteurs. Est-ce qu'il y a des producteurs vous qui vous ont influencé dans le rap? Des gens comme Mike Will, comme même Zethoven.
Carrément. Zethoven, Mike Will, tous. Itoïte Mafia, un peu tous. Après en France, j'en vois quelques-uns, mais pas forcément.
Corps, peut-être, non?
Ouais, un petit peu, mais après, voilà, Thérapie, j'ai bien aimé ce qu'il a amené.
Thérapie, c'est assez éloigné de ce que vous... Ouais, c'est quand même assez éloigné de ce que vous faites.
Ouais, quand même, mais c'est... au début, nous, on était un petit peu plus quand même...
D'accord, ok.
On était plus dans un délire sombre et tout ça, quand même.
Parce qu'on va dire Thérapie, ce qu'il a fait avec Caris, même un peu avec Booba, c'est assez loin de ce que vous faites.
Totalement.
Ah oui,
totalement.
Mais à la base, c'est la musique qu'on écoutait un petit peu.
Ah, d'accord.
Ouais.
Donc du coup, moi je sais que par exemple, quand on a écouté le... Moi je me souviens de deux claques qu'on a eues, c'est quand on a écouté Chief Keef, quand j'ai écouté Chief Keef la première fois, c'est Yann qui m'avait fait écouter. Et quand j'ai écouté Or Noir de Caris, on s'était dit, mais c'est le mec, c'est bon, il a compris. Il a compris ce que les gens faisaient aux États-Unis, il l'a fait chez nous. Bon après, voilà, ça évolue, etc. Donc maintenant c'est un peu à l'ancienne, entre guillemets.
Est-ce que ce serait pas qu'il y a une... Il y a peut-être un peu trop de reproduction dans la française de ce qui se fait aux États-Unis.
Ah, bah ça, c'est
dans le sens où, par exemple, Caris, effectivement, il y a beaucoup de ses morceaux qui ressemblent à ceux de Gucci Mane. C'est souvent, parfois.
Mais ça, c'est la mondialisation, c'est juste ça.
C'est là que, comment, Jul, il a.
Ouais, effectivement.
On peut saluer ça, quoi. Au moins, PNL et Jul, c'est vrai que. C'est peut-être... On peut pas leur reprocher de.
Et Lutès, oui, on peut les saluer aussi. Revenons à cette question, Marty, tout à l'heure, l'écriture des textes, alors.
Ouais.
Pour cette question-là, pour cette chanson que nous écoutions, enfin. J'appelle ça chanson, je sais pas comment
on est,
morceau,
ouais.
Chanson.
Ouais.
Pour ce BPM, je sens plus les battements. Ça vient d'où, ça? Et puis c'est, je sais pas, c'est quelle... c'est cette écriture tout à l'heure, vous disiez, Yann, qu'une prod peut prendre peu de temps à écrire. Les paroles, vous, ça...
Ouais, les paroles, ça peut prendre peu de temps aussi, ouais. Mais en fait, plus on se prend la tête, plus c'est long, en fait. Enfin non, c'est pas ça, en fait. C'est que, en fait, souvent, quand c'est le plus puissant, c'est quand ça met le moins de temps à venir. Parce que c'est une espèce d'évidence, en fait. Et plus on met longtemps, plus ce sera travaillé, bien évidemment, mais moins ce sera moins intéressant, je trouve. En fait, c'est vraiment le truc de l'instant, le feeling, en fait, du moment qui compte vraiment. BPM, en fait, c'est simplement... battement par minute, ça veut dire plein de choses. Ça évoque la musique d'une manière générale. Ça évoque le cœur aussi, les battements par minute. Et je ressens plus les battements. À la base, j'aime bien moi faire des choses assez imagées. Et j'imaginais quand je faisais ça, quelqu'un qui était dans une soirée, qui était un peu ivre, saoul, etc., dire je ressens plus les battements. J'imaginais quelqu'un dans une boîte de nuit quand il y a les basses qui te prennent au ventre un petit peu. qui ressentait plus ça parce qu'il était trop ivre, par exemple, mais aussi une relation avec la mort, un petit peu, etc. Donc voilà, ouais, c'est...
Ouais, il y a plusieurs sens.
Plusieurs sens. Il y a souvent plusieurs sens, en fait. Mm. Même si on ne les trouve qu'après, il y a souvent plusieurs sens.
Et comment ça marche pour la chanson elle-même? Vous écrivez donc les différentes voix. Il me semblait que c'était surtout vous qui chantiez Marty. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'impression que j'avais. Et en fait, non. Enfin, il me semble que ça se partage assez.
Sur ce projet-là, c'est... Enfin, avant, disons que Marty avait sorti un projet solo, il était quand même pas mal présent. En général, plus présent, on va dire. Et sur ce projet-là, on a. C'est un peu l'affirmation de Lutèce en tant que duo.
Ouais, duo.
Mm. On en parle une seconde. Lutèce, alors, pourquoi j'ai vu les Arocs évoquer un accent. Il y a quelque chose sur l'accent. C'est vous, ouais. Yann Lavignonnet, qui est responsable. Un accent qui est pas très net. Ni grave ni aigu, c'est ça, sur Lutèce.
Ouais, en fait, c'est l'accent du cancre. En fait, on l'appelle comme ça. Et en fait, c'est un accent. Bah, en fait, là aussi, il y a plusieurs sens. C'est un accent qui peut. Comment dire? En fait, quand on ne sait pas vraiment quel accent choisir,
le camp qui mettrait une barre. Enfin, c'est.
Et du coup, bah ouais. Voilà, c'est symboliquement, on a trouvé que ça nous correspondait bien parce que notre musique, on peut pas vraiment la réduire en fait à un accent qui
serait net, qui serait définitif,
comme ci ou comme ça, quoi.
Voilà. Puis même nous, on se cherche aussi, donc forcément.
Ouais.
C'est vraiment notre processus, il est
c'est ouvert, quoi.
On se pose 10 000 questions tout le temps, même sur les morceaux finis. Moi, je suis rarement content.
Ouais, c'est ça, c'est les choix, quoi, en fait. Ouais. Les choix de la vie, même là, on n'a pas su le faire, quoi, au final.
Donc, ouais, voilà.
Mais vous êtes au moins content de ce nom, hein, parce que ça claque mieux que Look de Noom, hein, c'est ça? Ça
aurait ouais, en fait, ouais. C'était pour évoquer quelque chose d'assez. En fait, on s'est dit, en choisissant le nom, on s'est dit, qu'est-ce qui évoque quelque chose de grandiose, d'universel, etc. Mm. Et puis, on trouvait qu'un mot ancien. Pour le coup, ouais. ça évoquait quelque chose d'immuable un peu.
Ouais, ça rejoint l'histoire de l'art aussi un
voilà,
petit
voilà,
peu.
Voilà, exactement.
C'est des noms qu'on a pas mal entendus et qui sont beaux, quoi, en fait.
Voilà, et puis par exemple, quand je pense à Lutèce, je pense à des colonnes, même si c'est pas du tout ça, parce que pour le coup, mais ça évoque ça en tout cas, des choses qui restent dans le temps, qui sont universelles, et simplement, Look de Noom, c'était pas beau, alors ouais. C'est Lutèce, quoi.
Voilà. Ça globalise aussi le projet, quoi.
Voilà.
C'est pas vraiment local, même si on est très attaché à Lyon, mais ça globalise et puis voilà.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des duos dans le rap qui vous ont, enfin qui
des duos,
ouais, auxquels vous voudriez peut-être voilà ressembler, je sais pas, ou qui vous ont inspiré ou qui.
T'en connais, toi, Isa, des duos dans le rap? Moi, je connais les Brothers, il y a les Dust Brothers ou les Chemical, mais c'est pas vraiment du rap, hein, les Chemical
ouais,
Brothers.
Ouais, Arsenic, enfin, je sais pas.
Il y a NTM.
Lunatic, je sais pas.
Ah, et PNL, ouais, ce sont des.
PNL,
PNL, ouais.
Moi, enfin, ce à quoi j'aimerais le plus ressembler.
Ah oui, c'est vrai, NTM.
Lunatic, moi. Moi,
Lunatic, ouais.
Ça a été une grosse influence.
Ouais, forcément, je prendrais comme pour beaucoup.
Ouais. Il y a ce côté assez complémentaire dans Lunatic.
Ouais, et aussi assez différent finalement, parce qu'il y a un peu quelqu'un qui est un petit peu anarchiste, qui est voilà, bas, et puis il y en a un qui est vachement plus réfléchi, vachement plus.
Ouais.
D'ailleurs, qui est même dans la religion, aujourd'hui, maintenant Ali, qui est quelqu'un de très. Enfin, qui est.
Le plus posé, ouais, plus réfléchi, ouais.
Ouais, c'est peut-être. Ça. Peut-être
et ça se faisait.
Ouais, ce contraste-là. Enfin, il y a aussi ce contraste entre vous.
Ouais.
Peut-être.
C'est un contraste, mais avec moins de.
Réfléchi.
On n'a pas forcément été. Enfin, moi, je pense pas avoir été influencé. Enfin, quand je pense à Lutèce et dans notre construction, notre évolution, je vois pas d'influence. Je vois pas d'influence. Pas de duo. Il y a des duos, ouais, comme ça. Même aux États-Unis, je sais pas. Bah, il y en a peut-être quelques-uns, mais.
Moi, ouais, Rich Remmerd, j'en parlais tout à l'heure.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que je.
Mais après, nous, dans notre approche du duo, on va dire,
il n'y a pas de.
Non, on se dit pas, ah vas-y, ils ont fait ça sur scène et nous, on va faire ça. Non.
Mm-hmm.
Il nous reste encore, je vois, à peu près un quart d'heure et il faudrait quand même évoquer un peu ce pan-là de Lutèce, une esthétique. On a commencé à l'évoquer avec les textes, mais aussi une esthétique, ces différentes images qui apparaissent sur SoundCloud ou je sais pas à quel endroit encore, des choses assez sombres. Non, c'est l'image sur SoundCloud, c'est un feu, c'est ça, une sorte de.
Ouais, feu on va dire ça,
autour duquel vous
encore une fois, c'est pareil, ça peut évoquer pas mal de choses.
Ouais.
En fait. on sait pas ce que c'est. Enfin, nous, on sait ce que c'est, on le dira pas. Mais...
Si, si, on va les travailler, Isa. Là, j'évoquais seulement ça pour voilà. dire écoutons Entre mes mains. Allez. Il me semble que le morceau est calé, donc écoutons Entre mes mains. Encore un quart d'heure, toujours sur Spectaculaire. Un dernier quart d'heure pour cette fin d'année 2016. On se retrouvera ensuite en 2017. Cet extrait de l'EP qui est disponible sur tout un tas de plateformes. C'est d'ailleurs, on pourrait l'évoquer, même il y a une forme de gratuité un peu, non? On peut télécharger sur SoundCloud.
Alors, il est sur Haute Culture.
C'est là que je vous avais découvert, en fait. Moi, c'est sur Haute Culture.
D'accord, ok. Et il est sur toutes les plateformes aussi pour ceux qui ont des abonnements sur téléphone. Tout ce qui est Spotify, Deezer, iTunes. Il y a juste à taper Lutèce, puis vous chopez le P, et puis voilà.
Nous écoutons Entre mes mains du duo Lutèce. J'espère que ça va fonctionner parce que les problèmes techniques se poursuivent, mais de toute façon, au pire, on discutera. Donc on voulait parler esthétique ou texte ou je ne sais quoi. Lutèce sur Radio Canu dans Spectaculaire.
J'ai du sang chaud dans le viseur. Je mets seul dans ma tête, je suis pas posé. Le temps passe, le temps file entre mes mains. Seul je vois le vice qui menace. Ce soir je suis trop loin. C'est soit le vice qui me lasse, soit je pense à demain. Je mets seul dans ma tête, je suis pas posé. Le temps passe, le temps file entre mes mains. C'est toujours le vice qui menace. Ce soir, je suis trop loin. C'est soit le vice qui me lasse. Soit je pense à demain.
Encore 10 minutes. Encore 10 minutes avec Lutès, à savoir Yann et Marty. D'ailleurs, on n'a pas évoqué les prénoms sur une radio concurrente, sur OKLM, je crois. J'ai appris que le prénom de Yann était dû à un goût prononcé de vos parents pour un film qui vient de sortir, enfin qui est sorti mercredi dernier, le Rogue One, la saga Star Wars. Vous avez une petite sœur Leia et un autre frère Lucas, c'est pas le Luc tout court. Et vous, Marty, il y a une influence également, hein, ce sera le grand terme de l'émission Isa, une influence Robert Zemeckis avec la trilogie Back to the Future.
Exactement.
Marty McFly.
Donc, d'ailleurs, Marty va aller chez le docteur après, parce que je suis malade.
Ben, merci beaucoup de nous accorder encore 10 minutes. Pour parler de Lutès, pour parler de cette EP, et on a donc évoqué tout un tas de choses, la musique. Isa, je ne te savais pas ça. Quelle énorme culture. Rap américain surtout, français aussi.
Français américain, tout. C'est principalement la musique que j'ai écoutée, donc, effectivement.
Très bien. Et alors, nous proposions pour cette dernière minute d'évoquer peut-être deux choses, à savoir un peu l'esthétique, on pourrait revenir sur les textes, et puis aussi, je crois qu'il y a des choses qui se préparent. Peut-être 2016, ça va être un peu court, là, le 21 décembre, il reste encore 10 jours pour terminer l'année, donc il n'y a peut-être pas grand-chose sur scène ou en sortie. Mais mars, avril, je crois qu'il y a des projets. Ouais. Yann, à vous la parole pour évoquer quoi? Alors, cette esthétique ou les projets à venir?
Par rapport au projet, déjà, on prépare un projet un peu plus conséquent que Laps, qui sortirait en mars. Et donc, on n'a pas de titre pour l'instant.
Est-ce que Laps a une sortie physique? On l'a
non.
pas dit, non? Il
n'y
a pas d'album CD. Donc, pas de pochette, pas de toutes ces choses-là. Et là, cette sortie à venir, plus conséquente, c'est un album. Alors là, ce serait un.
On va dire autour de 12 titres, ouais.
Et donc, une sortie physique alors, matérielle?
Non, je pense pas.
Ça marche plus.
Est-ce que c'est nécessaire encore de faire des sorties physiques? Non, si on a un artiste très important,
c'est
comme
plus nécessaire.
Je sais pas, Jules, sur le mec. Je suis pas sûr en fait que
c'est nécessaire pour faire plaisir. Enfin, moi, vraiment, ce que j'adorerais, ce serait faire presser 2-3 vinyles pour les filer à mes parents ou un truc comme ça. Ça, c'est nécessaire. Enfin, c'est plus personnel, je pense. Mais après, la sortie physique, elle sert plus à rien, quoi.
Après, s'il y a de l'argent, entre guillemets, à prendre là-dedans, peut-être que c'est judicieux pour certains artistes qui sont vraiment.
Surtout si t'es connu, oui, je pense.
Voilà, mais nous, ça nous ferait perdre de l'argent.
Ouais, nous, ça nous ferait perdre de l'argent. Ouais, après, le curseur, il est toujours là. Hein. Ouais. En fait, un groupe, ça marche un peu comme une petite entreprise au final. Quand on a un peu marre de dépenser de l'argent, bah, t'essayes d'en gagner, quoi.
Voilà. Et donc, alors, nous vous interrompons, Yann, sur une sortie mars, avril, quelque chose, vous dites un peu plus important.
Ce serait sur le mois de mars, et du coup, on n'a pas de titre à dévoiler pour l'instant, mais on serait sur un projet plus gros.
Ce serait une mixtape, je pense.
On appellerait ça soit une mixtape, soit un LP, du coup. Je sais pas.
Et est-ce que vous comptez faire plusieurs mixtapes comme font justement les Américains dont vous parliez avant, Tiff Kiff, tous ces artistes qui n'ont pas beaucoup d'albums mais qui ont énormément de mixtapes, qui en font beaucoup.
Ah, c'est les gens très productifs qui se permettent de faire ça. Nous, je sais pas trop si on est sur ce format-là. Parce qu'à chaque fois qu'on sort un projet, on a envie que ça crée un peu un événement médiatique, on va dire. Et du coup, on n'est pas forcément sur ce format-là.
Ouais, et puis surtout que nous, on est dans un processus créatif qui est très, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, très musical. C'est-à-dire qu'une mixtape, c'est avant tout parce que le mec a choisi 10 instrus qu'il aimait bien et puis qu'il rappe dessus. Ça peut prendre 2 jours à enregistrer une mixtape. Moi, si je te fais une mixtape, en 2 jours, elle est enregistrée. Ouais. Mais c'est pas. Nous, vu qu'on est plus dans la création musicale, qu'on pense au son, etc., quand même. Parce qu'on dit 20 minutes, quand il dit 20 minutes, c'est les instrus qu'on fait pour les rappeurs, etc. Enfin, qui fait pour. Pour le rap à part entière. Mais quand c'est nous, on se prend quand même un peu plus la tête, quoi.
Ben là, on pourrait revenir légèrement sur ce morceau que nous écoutions. C'était Entre mes mains.
Ouais.
Et il y avait donc du 808, c'est ça? Des synthés. Il y avait plusieurs lignes. Il y avait un paquet de choses. Oui, là, vous vous rappelez le temps que vous avez pu mettre pour ça, Yann? Ça a été pas 20 minutes, non, en tout cas. Ni 3 quarts d'heure.
Non, je pense que le premier jet, vraiment, je pense, c'était autour d'une heure, je pense. Un premier jet pour qu'on puisse enregistrer, commencer à bosser dessus. Et après derrière, il y a du boulot, un peu d'arrangement, tout ça, faire un début propre, une fin, que ce soit... Je pense que c'est autour de 2 heures, je pense. Vraiment bosser l'instrumental, quoi.
Et mais 2 heures en continu, c'est donc en fait peut-être plusieurs jours, c'est ça? Ou non,
deux fois une heure, je pense. Ouais.
Et là, pour cet album à venir, quel terme employer, Isa, des featuring ou des collabs? Il y aurait un peu plus de monde que vous
pas
deux.
Pas de featuring.
Pas de featuring.
Ouais, featuring, on n'en fait pas, en fait.
Mais reste, ce sera un album.
C'est pas le terme de collaboration, c'est ça?
Ce sera un album.
Non, featuring, c'est un duo, en fait.
Ce serait comme l'abs, en fait.
D'accord. Ouais,
ouais. Deux conversations qui se mènent, c'est super. Ouais. Vous dites, Yann, c'est...
Il me demandait si ce serait un album ou une mixtape.
Parce que c'est pas pareil.
Oui, c'est pas pareil, c'est vrai, au niveau de l'appellation, on va dire.
Travail même. Yes.
Mais après, en fait, il serait distribué comme l'Apps, il serait en téléchargement pareil. Donc voilà, quoi. Ça reste des mixtapes, on va dire, dans le sens où c'est pas commercialisé. Okay. Alors qu'un album ou un EP, c'est plutôt commercialisé en général, enfin, je sais pas. Mmh. Mais là, ce serait le même format, en fait, que l'Apps. Juste un petit peu plus long, en fait, comme projet.
Mais est-ce que vous entendez grossir avant de sortir un album, justement?
Ah oui, ça, je pense que c'est primordial.
Vous ouais. dites, ouais.
Ouais, parce que les artistes qui sortent des albums, même en étant. Enfin, c'est arrivé là, dernièrement, hein, des artistes qui pop un petit peu, comme on dit, qui sont connus d'un coup et qui sortent un album juste après, en général, ça marche pas. S'ils font 500 ventes, c'est le bout du monde. Mmh. Alors que nous, en téléchargement gratuit, bah forcément, on est déjà, je sais pas, j'ai pas regardé dernièrement, mais on doit être à 600, quelque chose comme ça. Donc, intrinsèquement, ça veut quand même dire que le mec, il a vendu. Enfin, il y a autant de gens qui ont notre projet à nous que son projet à lui. Bon, parce que c'est. Parce que c'est pas payant, bien évidemment. Mmh. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Parce que notre but, c'est que le maximum de gens voient notre musique, en fait. Donc ce serait pas judicieux à l'heure actuelle de faire un album, de le vendre.
Après, le mec, s'il a 500, si tu parles de Kekra ou je sais pas qui.
Ouais, c'était ça.
Ah ouais, Kekra, oui, effectivement.
Il a
ouais.
500 ventes, mais il a peut-être 30 000 téléchargements.
Ouais, bien sûr, ouais, voilà, ouais, c'est ça.
T'as un ratio. Nous, si on a 500 téléchargements. On aura 40 ventes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Coup, c'est trop prématuré.
Les textes pour ce projet, ils sont un peu prêts. Vous y travaillez, Martin?
Oui, tout est presque prêt. Disons qu'au niveau des textes, c'est prêt à 70%, quoi. Mm-hmm. Après, voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est que souvent, on fait un projet entier en faisant beaucoup de maquettes. Là, en ce moment, on est là-dessus. Par exemple, après, là, on va faire ça. Je suis malade, donc ce sera forcément pas du définitif. Mais quitte à poser des blablabla, juste pour faire. Comme ça, on a la base, on sait à quoi ça ressemble. Après, on le fait écouter à tout notre entourage proche, je dirais, qui est à fond dans le projet. Et de là, on choisit celle qu'on va plus développer pour des clips, pour des machins comme ça, quoi.
À propos d'entourage, Yann, tout à l'heure en antenne, j'entendais que vous vous êtes bien entouré pour un ou plusieurs clips de Lutèce.
Ouais.
Vous avez trouvé un cadreur, filmeur, c'est quoi?
C'est mon frère, en fait.
Caméraman.
C'est mon frère, mon grand frère qui fait de la vidéo, qui s'appelle Bogus, et qui est sur Facebook. Et du coup, c'est lui qui a filmé, en fait, le clip avec Hyacinthe, qui s'appelle Un sursis, qui est sur YouTube, le clip de Ailleurs. Tout ça, c'est sur notre chaîne YouTube, Lutèce. Et il a aussi filmé le clip de Sans élan et de BPM.
Et alors, est-ce qu'on retrouve dans ces clips cette esthétique? Je dois confesser, c'est terrible de faire ça. Je ne les ai pas vus, j'avais manqué cette étape-là. J'ai écouté les textes. Et donc, est-ce qu'on retrouve un peu ouais, je sens plus les battements, il n'y a personne qui m'attend. Ou qu'est-ce qu'il y a encore comme bout de parole? Voilà, j'avais préparé, je les ai zappés. J'ai le blues sur ma planète. Enfin, c'est mince.
Ouais, en fait, l'esthétique de nos clips, c'est souvent des trucs très suggérés. Très artistique, entre guillemets. D'ailleurs, c'est un truc qu'on travaille, quoi. Mais on a commencé par naturellement faire des clips. Comment dire. En fait, on se propose dans des clips de manière très, très suggestive, toujours très introspectif, pas frontal du tout, quoi. On n'est pas là à kicker devant la caméra. Donc voilà. Mais ça, c'est assez original en soi, je pense. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. Parce qu'il y a certains qui disent qu'on se cache même. Alors que c'est vraiment une volonté esthétique, en fait, de proposer un truc. Voilà, qui soit vraiment dans l'intériorité de l'artiste.
Moi, je trouve qu'il y a une esthétique assez léchée dans vos clips. Il y a certains de vos clips qui m'ont un peu fait penser au clip Nekfeu sur son album Feu. certains clips.
Ouais, ouais, moi qui étais très, je maîtrise pas trop ça.
Ouais, j'avoue qu'on est, enfin,
ouais. Moi j'ai un
Et cette intériorité, alors comment est-elle? Il y a une forme de mélancolie un peu, c'est ça? Ou
ah oui, ça c'est...
une sorte de, même un mal-être, un spleen, ça c'était le terme un peu 19e quand même, c'est un peu daté.
Ouais, bah c'est exactement ça en fait. Enfin, bon, on peut l'expliquer ici sur cette antenne, parce que c'est. En fait, à la base, enfin, y a un mouvement artistique qu'on adorait, enfin, qu'on aimait bien, qui s'appelait le romantisme, en fait, du 19e siècle. Voilà. Avec, mais surtout dans la peinture, même si je sais qu'il y en a aussi dans la littérature, etc. Tout ce qui est, par exemple, des peintres.
Caspar Friedrich Hauser, c'est ça?
Exactement.
Le montagnard au sommet, là.
Voilà, donc c'était Friedrich.
Turner, il y a une superbe exposition à Aix, vous avez pu vous y rendre au musée. Je crois Caumont, me semble-t-il. J'ai manqué ça. C'était encore au mois de septembre. C'est super, ces couleurs. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de.
Oui, mais en fait, c'est simplement la contemplation du monde. En fait, c'est l'expression des sentiments avant l'expression de l'intellect. Et nous, c'est ça, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça revient à ça. C'est exprimer les sentiments du moment, de feeling du moment, parce que on n'est pas bien, parce que machin, etc. Voilà. C'est avant tout ça. Des exemples pareils en peinture comme Delacroix, des choses comme ça, c'est typiquement des choses qui moi en tout cas me parlent. Toi j'imagine que vous aussi, puisqu'on en parle souvent, mais voilà, donc c'est
ce côté un peu poétique presque, on veut dire.
Voilà, en fait on retranscrit cette idée là et ce mouvement là à notre moyen d'expression qui est le rap, c'est tout, parce que c'est ce qu'on aime et ce qu'on écoute, mais ça pourrait très bien être autre chose au final. Voilà, donc en fait toutes ces toutes ces questions de crédibilité, de choses comme ça, etc., pour moi, elles n'ont pas lieu d'être. Parce que, simplement, voilà. Déjà, j'ai pas vraiment l'impression de faire ça comme musique. Enfin, si, parce qu'on est. Voilà. Mais voilà, ça n'a juste pas lieu d'être, en fait. C'est juste notre moyen d'expression, après. C'est tout, quoi.
Ok. Et vous disiez tout à l'heure que vous produisiez aussi pour d'autres artistes. Ouais. Enfin, vous produisiez pour qui?
Je sais pas.
Je vous laisse réfléchir, Yann. Je constatais seulement, il est 15h, on a passé l'heure, mais le blues des canuts n'a pas lieu, Pascal n'est pas là, alors on va dépasser. On va dépasser peut-être pas une demi-heure, trois quarts d'heure, mais quoi, quelques minutes pour que justement vous puissiez, Yann, trouver quelques noms. Et puis on écoutera peut-être Planète pour terminer l'émission, puis je crois qu'on aura fini.
Parfait.
Ben, je sais pas, il y a un artiste qui s'appelle Jordi.
Jordi, oui,
à
je
Lyon.
Connais. Ouais, je connais.
Un gars de son groupe qui s'appelle Fris Corleone aussi. Après, j'ai pu bosser aussi avec d'autres personnes de son groupe, Kix, un gars qui s'appelle Zuku Maisie aussi.
Avec RTT.
RTT Clan, qui sont aussi des rappeurs lyonnais. Un collectif qui s'appelle DFDG, qui est à Gerland.
Ouais, je connais effectivement, ouais.
Eux enfin, qui tournent pas mal.
Un nom un peu. Un petit peu curieux, quand même.
Ouais, force
ouais,
de
ouais, ouais,
ouais.
Il y a un nom un peu curieux, effectivement.
Ouais. Nice. Et sinon, je sais pas, après, il y a un gars de Rock Island, c'est à côté de Chicago, c'est un mec qui s'appelle Getty. Avec lui, j'ai fait pas mal de sons. Il y en a un qui l'a clippé. Donc voilà, après, il y en a quand même pas mal, sans prétention, mais c'est, on va dire, ceux que j'ai sur le moment et ceux que je préfère, entre guillemets,
ouais,
que j'ai cité.
C'est aussi en rap ou non, pas du tout
non. Non, c'est que rap hip-hop, ouais. Trap, même, j'ai envie de dire. Ouais.
D'accord.
Planète, et puis on en aura terminé avec Lutèce. Non, on n'en aura pas terminé. Ce qu'on pourrait faire, c'est, on aime bien ça, spectaculaire, se caler d'autres rendez-vous avec les artistes qui viennent, les personnes qui viennent. On s'est dit que Stéphane Roche, on le verrait au mois de mai, c'est ça, je crois.
Ouais, c'est ça.
Et on s'est dit également peut-être que Martin, on le reverrait une prochaine émission. Martin, la semaine dernière, Martin et ses antécédents nous disaient que non, lui, il aime bien. Ils viennent de presser 1000 CD. Mais bon, ils sont passés par Kickstarter pour. Non, pas Kickstarter, c'est un autre, c'est Kiss Kiss Bang Bang pour faire ça.
C'est pas mal, ça.
Et enfin, voilà, ils trouvaient ça intéressant. Écoutons Planète, et puis on va se fixer un autre rendez-vous avec Lutèce, peut-être justement mars-avril, ou alors un peu après, une fois qu'ils auront sorti. Une fois qu'ils auront sorti ce projet qui n'a pas de nom pour l'instant.
Non.
Ça n'a pas de nom.
À dévoiler, non.
À dévoiler.
Mais donc, il y a un nom. On va tout avoir en tête.
Planète, et nous terminerons.
s'effacerait de ma mémoire comme Tommy Lee. Je perds le contrôle quand je pense à tous ces doutes et ces sacrifices. Sur ma planète y'a peu de place pour les autres et je me demande si un jour elle va le sentir. Du mal à me livrer sauf quand je m'enivre. Du mal à lui dire faut consentir. Elle me dit que je vais partir quand je gagnerai la partie. Qu'elles seront toutes par terre. Lutesse c'est le parti. Je leur parle les bras écartés. Je répartirai les cartes. Je vois s'aligner les astres. J'ai rêvé d'hier et le ciel était sombre et froid. J'ai rêvé d'elle, elle partait dans un sombre et froid. Mais réveille-moi.
Je cruise sur ma planète. J'ai le blues sur ma planète. Trop loin, j'attends pas d'aide. Je vois le temps passer comme une comète. Je cruise sur ma planète. Je tourne autour d'eux comme une planète. Trop loin, j'attends pas d'aide. Je vois le temps passer comme une comète.
Aussi sur...
Ah là là, il faut que ça termine comme ça. Radio Canu, vous en faites pas. Regardez, on a un super truc. Eh ouais, c'est génial. Ce n'est pas le générique de fin d'émission, c'est un CD qui traîne à Radio Canu. Vous saurez absolument tout. C'est le Act One de Sporto Cantès. Ça n'a rien à voir avec Lutès, si, dans la sonorité peut-être. Sporto Cantès, Lutès. Tout ça pour vous dire qu'une fois que l'émission aura terminé, il y aura un peu de blanc. Bon bah c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est quand même lancer le générique de fin d'émission puisque nous sommes en train de dépasser un petit peu. L'émission touche à son terme, c'est bien ça. Et voilà, Massive Attack pour terminer spectaculaire, émission numéro 116 en ce mercredi 21 décembre 2016. C'était Lutès qui était avec nous, Marty et Yann. Coucou à Jalel qui vient de passer prendre nos invités. Bon, bah c'est très bien, il a raison. De toute façon, c'était les siens aussi, il les a déjà reçus sur un autre créneau horaire. Je souhaitais aussi terminer l'émission en faisant quelques petites annonces. Il y a des spectacles de fin d'année. Puisque, vous le savez, Spectaculaire couvre généralement un peu les structures classiques. Et bien, du côté du Théâtre des Célestins, il y a deux spectacles qui sont donnés en fin de journée sur deux horaires. C'est super. Ça permet comme ça d'en voir un premier puis après d'en voir un autre. Je vous redonne les noms que Gilles vous a indiqués tout à l'heure dans le Panorama Hebdo. Il s'agit de Circus Incognitus et la revue Sea Girls, la revue. Circus Incognitus de et avec Jamie Atkins. C'est un peu plus tôt, je crois. C'est le spectacle qui est à 19h. C'est à voir en famille. Et Sea Girls, la revue, c'est un peu plus tard, c'est à 20h30. Mince, je vous dis des choses que je n'ai pas sous les yeux. Bah écoutez, je vous en prie, allez vous renseigner sur le site des Célestins, ce sera beaucoup plus complet. L'opéra ne fait pas grand chose ces jours-ci, l'auditorium, oui, il y a un concert à la semaine prochaine avec notre cher camarade Antoine Glattard qui dirige Rêve de Cirque, mais ça c'est la semaine prochaine. Rendez-vous sur le blog pour avoir plus de précisions et puis pour en savoir davantage sur Lutès. Je mettrai les liens internet pour leur page, leur chaîne YouTube ainsi que SoundCloud et tout ça. Merci à eux, merci à tout le monde, merci Isa. Restez à l'écoute des bandes continues. Ah ben non, il n'y a pas de bandes continues. Donc vous allez écouter un peu du Sporto Cantès et puis c'est tout. À l'année prochaine, passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis tout est très bien. Salut tout le monde, bye.